Bonsoir, c'est un duel inédit qui sera proposé demain aux Londoniens. Ils auront le choix entre le fils d'un milliardaire, le conservateur Zach Goldsmith, et puis le fils d'un chauffeur de bus pakistanais, le travailliste Sadiq Khan. Oui, pour succéder à Boris Johnson, le maire de la ville. Londres qui attire, Londres qui séduit, hein, des jeunes traders, des patrons de start-up, des migrants venus du monde entier, venus tenter leur chance, mais Londres déçoit ses habitants, ses propres habitants, avec des transports saturés et puis des logements de moins en moins abordables qui font fuir justement la population. Alors, Londres fait-elle toujours rêver? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Londres à la une des décodeurs de l'écho, donc jusqu'à 20h. C'est la première partie des décodeurs de l'écho sur BFM Business. Et puis on traversera le monde tout à l'heure à 20h pour être dans un tout autre endroit. Là, changement complet de paysage. La Corée du Nord, justement. Avec une question toute simple, nécessairement un peu provoque. Kim Jong-un est-il le grand soleil du 21e siècle? Oui, c'est le titre qui lui a été donné ce matin par la presse nord-coréenne à quelques heures de l'ouverture d'un congrès inédit du Parti du Travail nord-coréen, l'équivalent du Parti communiste, si vous voulez. C'est le premier congrès, donc en 36 ans. On fera le point tout à l'heure à 20h sur ce pays extrêmement fermé. Avec nous, pour nous parler de Londres, on attend dans un instant la spécialiste de la Grande-Bretagne, Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste, écrivain. On est avec Olivier Gérard, associé européen de Cushman & Wakefield, l'un des géants mondiaux de l'immobilier d'entreprise. On parlera notamment des bureaux, des tours qui fleurissent à Londres. On est avec Rémi Pességuier. Il est associé chez ESV Digital. Il dirige le bureau de Londres. C'est un cabinet de conseil en stratégie, en transformation digitale. Et puis on parlera aussi beaucoup d'immobilier, je vous le disais, avec Laurent Demeure, là aussi un grand spécial, alors de l'immobilier qui n'est pas l'immobilier de bureau, l'immobilier plutôt des appartements, des logements. Il est président de Coldwell Banker France et Monaco, plutôt spécialisé, vous le savez, dans l'immobilier de luxe, mais il nous parlera de tous les logements. Alors, face à face donc, demain à Londres, face à face inédit, que certains voudraient présenter un petit peu comme le pauvre malheureux face au méchant riche. On voit ça avec Dorothée Balsan.
C'est une bataille entre deux visages de Londres, entre deux candidats que tout oppose. D'un côté, pour le parti travailliste, Sadiq Khan, 45 ans, né dans une famille d'immigrés pakistanais. Il grandit dans un HLM d'un quartier populaire de Londres avec ses 6 frères et sœurs. Il est musulman, son père était chauffeur de bus, sa mère couturière. Son parcours politique commence jeune, il adhère au parti travailliste à 15 ans, est élu conseiller municipal 10 ans plus tard, puis devient ministre dans le gouvernement de Gordon Brown. Un parcours comme un conte de fées, une histoire qu'il met largement en avant dans sa campagne. Il se pose en rassembleur et accuse son opposant, Zach Goldsmith, de diviser.
Je veux dire une chose à Zach Goldsmith. Diriger Londres signifie rassembler nos communautés, unir notre ville. Et c'est ce que vous ne faites pas. Vous ne rassemblez pas les communautés, mais menez campagne en attisant les divisions et la peur.
Zach Goldsmith, 41 ans. Les fées, elles se sont penchées sur lui dès le berceau. Fils d'un milliardaire franco-britannique, une éducation dans la prestigieuse école d'Eton, il est marié à une héritière de la famille Rothschild. Il se lance en politique à 35 ans. Il est élu député, puis réélu l'année dernière. Il dispose du soutien du Premier ministre David Cameron et du maire sortant Boris Johnson. Il affirme que les origines ne sont pas un sujet dans une élection municipale, mais dans son tract de campagne, il accuse son concurrent d'être radical, même s'il se défend ensuite sur une chaîne britannique de toute connotation religieuse.
Si on ne peut pas utiliser le terme radical dans un contexte politique, ce qui est clairement et sans ambiguïté ce que je faisais, et je ne crois pas que quiconque dans le monde puisse supposer autre chose. Je pense que Sadiq Khan a joué la carte de son origine et je pense que ce n'est pas bien.
Leurs idées sont également opposées sur la question de la la sortie ou non du Royaume-Uni de l'Union européenne. Sadiq Khan est pour le maintien, Zach Goldsmith pour la sortie. Mais pour le reste, un programme similaire, comme davantage de logements sociaux ou plus d'investissements dans les transports. Sadiq Khan est aujourd'hui largement favori. Il a une vingtaine de points d'avance dans les sondages.
Voilà, explication signée Dorothée Balzan pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Rémi Pesseguier, donc ESV Capital. Au travers de cette bataille, j'ai l'impression que se noue tout le paradoxe de Londres, la capitale britannique, qui sait aussi bien attirer des investisseurs, de riches investisseurs, et aussi bien les rêves donc de populations immigrées venues tenter leur chance.
Tout à fait. Moi, ce que je perçois, en tout cas, de mon expérience, c'est que d'un côté, mes camarades d'école, en tout cas des gens que je connais et des personnes avec qui je peux travailler, ça attire les fonds d'investissement, les talents. De l'autre côté, on a un bureau à Londres où on a des équipes qui font une heure et demie de transport par jour pour aller au bureau et pour repartir avec des profils venant de toute l'Europe et qui viennent essayer de travailler là-bas et de tenter leur chance. Et on voit vraiment cet écart entre les deux, des traders d'un côté et de l'autre côté, des gens qui essaient dans des métiers qui sont peut-être un peu moins rémunérés.
C'est une vraie tour de Babel, hein, à Londres. 4 Londoniens sur 10 sont nés hors du Royaume-Uni, ville extrêmement... rempli, hein, 8 600 000 habitants. On devrait atteindre prochainement le cap des 10 millions d'habitants, donc à échéance d'ici 5-6 ans maintenant. Tour de Babel, par exemple, tiens, de votre entreprise ESV Digital, vous nous disiez donc, eh bien, on a plusieurs nationalités, c'est le cas?
Oui, on a 60% de nos équipes qui ne sont pas anglaises. Oui. Et 40% qui sont anglaises, dont une partie qui sont des Anglais, d'origine anglaise.
D'origine indienne.
Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu aussi la donnée, deux de ces personnes-là sont pour le Brexit.
Ah, alors ça, on y reviendra justement. Qu'est-ce que va devenir Londres en cas de Brexit? Bon, on saura évidemment le 23 juin, on va s'en poser la question. Laurent Demeure, spécialiste d'immobilier à la tête de Coldwell Banker, France et Monaco. Je disais, c'est une vraie tour de Babel et on voit Londres qui s'enrichit tout en haut.
Bien sûr.
Quand elle s'appauvrit tout en bas. Londres, c'est à la fois l'oligarque russe qui vient acheter un appartement, peut-être chez vous justement, et puis c'est également eh bien, l'employé pakistanais à la plonge dans un restaurant.
Oui, je crois que Londres a créé un modèle économique avec un statut fiscal qui permet à certaines personnes de ne pas être imposées pendant un certain nombre d'années, surtout leurs revenus en dehors du sol britannique. Donc a créé un modèle tout simplement de faire venir les gens qui ont de l'argent du monde entier venir s'installer à Londres et créer une économie de services autour. C'est tout à fait une modélisation économique, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse, et c'est le modèle de Londres. Et c'est un modèle qui marche depuis 10 ans, voire 15 ans, de manière extraordinaire.
Ouais, c'est la municipalité qui donnait ces chiffres, hein, quelques 2000 immigrants qui arriveraient à Londres chaque semaine.
Et on en bloque beaucoup en France, il y en a beaucoup.
Évidemment du côté de Calais. Hein.
Et on voit que ceux qui ont vraiment envie de travailler veulent à tout prix aller à Londres.
Ouais, alors une explosion démographique, hein, plus 15% d'habitants entre 2004 et 2014, hein, c'est le centre Center for Economics and Business Research qu'il donnait, c'est le journal Les Échos qui rappelait ces chiffres ce matin. La population augmente de plus de 100 000 personnes tous les ans. 9 habitants de plus par heure, c'est la plus grande ville d'Europe. Les 10 millions devraient être franchis en 2030. Oui, évidemment, tout ça pose des problèmes dans les rues, dans les villes, pour l'aménagement aussi bien de bureaux que d'appartements. Allez-y, Olivier Gérard, que je mène à Wakefield.
Alors, notre vision est un peu différente puisqu'on suit les entreprises,
oui,
plutôt que les personnes, mais effectivement, les entreprises...
C'est tout le temps à Londres,
du monde.
Vous-même.
Ouais. Donc, le paradoxe, c'est que Londres est une ville qui se développe, qui se renouvelle et qui est créative en matière d'immobilier d'entreprise. On n'a qu'à le voir, lorsque vous prenez une photo de Londres il y a 15 ans, une photo de Londres il y a 5 ans, et vous imaginez ce que ça sera demain, la ville s'est totalement transformée. On va pas faire des paradoxes avec Paris qui ne bouge pas, mais on pourrait en parler un petit moment.
Si, posons-nous la question justement. Pourquoi est-ce qu'à Londres, par exemple, on trouve des gratte-ciels partout? Il y a 200 gratte-ciels qui sont en projet, hein, 200, ouais. 250. Alors évidemment, ouais. The Shard, hein, évidemment.
On avait 230 ans, mais on est dans ces chiffres.
On est dans ces chiffres-là, justement. La plus haute tour d'Europe, le Shard, 300 mètres d'altitude. On a l'impression qu'à Londres, c'est pas péché, c'est pas tabou, justement. Alors qu'ici, en France,
on
à
est
Paris,
sur...
on se pose des questions, on se fait des nœuds au cerveau en permanence.
C'est vrai. On est sur une économie qui est extrêmement libérale, avec une attractivité globale des entreprises. C'est un marché qui est mondial, c'est un marché qui est extrêmement orienté sur le monde capitalistique, sur la finance. On est sur un marché qui aime à se renouveler et c'est une ville qui, il faut s'en souvenir, après-guerre, a dû être construite intégralement. Donc peut-être plus de libéralisme au niveau de la construction que sur d'autres villes qui sont plus historiquement ancrées sur leur leur histoire.
Et sur le logement, justement, Laurent Demeure, quand on voit donc une population qui grossit, hein, 8 600 000 habitants, la ville de Londres, pour bien imaginer, elle est 4 fois plus peuplée que Paris. Alors, c'est vrai que Londres a absorbé sa banlieue dans les années 60, ce que n'a pas fait Paris, bien entendu. Mais évidemment, tout ça pose des problèmes en matière de logement. Et c'était au cœur de la campagne électorale pour les élections de demain.
C'est évident que le logement dans une ville qui croit, une ville qui crée de l'emploi, une ville qui avance, qui va vers le futur, qui n'a pas peur d'y aller et qui va franchement, le logement doit suivre. Et ça, c'est une véritable préoccupation. Alors, si le logement ne va pas assez vite, on est obligé de s'éloigner du centre. Et les Anglais, de plus en plus ceux qui ont des revenus les plus modestes, sont obligés de s'éloigner du centre. Et il n'est pas rare de faire une heure de transport pour venir travailler au centre de Londres. Mais ça, je dirais, c'est le lot de toutes les grandes villes dans le monde aujourd'hui, que ce soit Moscou ou Londres.
Avec autant de hausses, les prix immobiliers qui se sont envolés de 500% en 20 ans. Je vais donner quelques chiffres. Le prix moyen d'un logement, il atteint presque 500 000 euros, je le donnais aussi en livre.
536 000 pounds.
Combien ?
536 000 pounds.
Ah, mais alors c'est plus que ça, oui, parce que moi j'avais le chiffre de 383 000 pounds, donc 500 000 euros, et le loyer moyen, donc à peu près à 2100 euros à peu près. Mais alors vous avez peut-être d'autres chiffres, hein, Laurent Demeure.
536 000 pounds, c'est l'unité moyenne l'année dernière, en 2015. Le loyer moyen, après ça, j'ai moins de stats là-dessus, mais c'est vrai que les loyers sont 30% plus chers que ceux de Paris. Et ça pose forcément des problèmes. Moi, j'ai une fille qui vit à Londres. Chercher un nouvel appartement, c'est un budget. C'est un budget certain. En même temps, ils ont des revenus qui sont quand même très supérieurs à ce qu'ils trouvent sur le marché français. Ma fille était à Manhattan. Pour prendre un nouveau poste, elle a eu le choix entre Londres et Paris. Au bout de 15 minutes, le choix a été vite fait.
Bien sûr. Ouais.
Le dynamisme est là-bas. Les revenus sont là-bas.
N'empêche que les loyers représentent maintenant jusqu'à 50-60% des revenus, même si on gagne beaucoup, ça représente quand même une part importante. Et résultat, beaucoup de familles fuient la capitale. Et vous, Rémi Pességuier, vous êtes associé chez ESV Digital, donc vous nous disiez tout à l'heure, chez des collaborateurs à Londres, qui mettent 1h30 pour venir le matin, c'est-à-dire que les forces vives, elles sont en dehors de la ville maintenant.
Tout à fait. Et je pense qu'il y a une vraie séparation entre des populations qui travaillent plutôt à la city. En gros, il y a vraiment la finance d'un côté et les services à, entre guillemets, moins forte valeur ajoutée, où on se retrouve avec des personnes qui sont obligées d'habiter en dehors de Londres ou d'être en colocation avec des systèmes un petit peu malins pour essayer de vivre ensemble avec des appartements partagés.
Mais est-ce que cette hausse, justement, du prix des loyers dans Londres, maintenant, c'est un handicap pour Londres en termes d'attractivité, avec des salariés qui sont forcés de quitter la ville ou qui ne peuvent plus finalement s'y installer. Est-ce que vous en inquiétez, vous, en tant que chef d'entreprise ?
Pour nous, c'est un vrai sujet, parce que la problématique est la suivante, c'est qu'on a la volonté de se développer assez significativement sur le conseil là-bas, et il y a un enjeu, c'est quand vous voulez discuter avec quelqu'un de la rémunération qui l'attend, il faut discuter de son salaire. De son salaire, ça implique quel est le coût de logement qu'il va avoir, et donc c'est une vraie problématique sur comment on les recrute. Et comment aussi on fait venir des personnes qui, sur certains modèles économiques, on a des revenus qui sont pas suffisants d'un point de vue entreprise, chef d'entreprise, pour pouvoir couvrir des hausses de rémunération significatives.
Ah oui, Olivier Gérard, associé européen chez Cushman et Wakefield, vous y êtes, je le disais, régulièrement à Londres. On voit le nombre de foyers de la classe moyenne qui a baissé de 43% entre 1980 et 2010. Qu'est-ce qu'on trouve maintenant dans le centre-ville de Londres ?
Dans le centre-ville, on trouve différents types d'activités, que ce soit dans le West End, des sièges sociaux, des entreprises dynamiques dans les domaines du luxe, peut-être des services également. Dans la City, plutôt la finance, le conseil. Donc des entreprises qui emploient des gens, des cadres supérieurs, à valeur ajoutée, à grosse rémunération, puisqu'il faut pouvoir les loger effectivement dans des conditions assez difficiles. Mais on trouve tout type d'entreprise avec quand même une très forte dominance sur la finance. En matière de mètres carrés, par contre, il faut savoir qu'il y a quand même une rotation assez importante, même s'il y a 10 ans, les loyers étaient bloqués par le fait que les rotations étaient moins nombreuses. Les loyers sont libéralisés parce que la durée des engagements des entreprises a pu être réduite et donc il y a une fluidité, une rotation d'entreprise beaucoup plus rapide. Donc c'est pour cela que les mètres carrés nouveaux trouvent preneurs, c'est pour cela que l'on crée des tours, parce que les entreprises veulent se développer dans leur temps. Des immeubles plus efficaces.
Rémi Fességuier.
Non, ce que je pense aussi, c'est que c'est intéressant. Il y a un article qui est sorti sur la volonté de développer des logements en sous-sol. Je ne sais pas si vous avez vu.
Si, bien sûr.
Choses qui sont sorties autour de ça, ce qui est assez étonnant, ce qui montre l'enjeu.
Ouais, ce qui montre l'enjeu, Laurent Demeure, et ce n'est pas sans causer des problèmes, parce que là, c'est réservé quoi, quand même, aux très très riches, qui arrivent à creuser des logements dans le centre de Londres. C'est une véritable plaie maintenant, parce qu'évidemment, les voisins, ils voient la terre trembler en permanence tout autour d'eux. On en arrive là, n'empêche.
Je crois que on va vers, sur ceux qui ont beaucoup d'argent, ils veulent des propriétés de plus en plus grandes. Donc ça va vers des unités de plus en plus grandes et on n'a pas de choses équivalentes en France du tout.
C'est-à-dire, donnez-nous des exemples. Hein.
Aujourd'hui, des personnes cherchent des propriétés de 800 000 mètres.
Donc ils négocient quoi, plusieurs dizaines, une centaine de millions de livres ?
Dizaines de millions.
D'accord.
Ce qui n'est pas d'équivalent ailleurs. Il y a une volonté, c'est une ville qui est en expansion, c'est une ville qui avance, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui se modernise. Il y a des tours qui montent, il y a de l'attractivité. Et je dirais, il n'y a pas peur de montrer qu'on réussit.
Oui, alors très bien. Mais à qui achète, par exemple ? Est-ce que ce sont des gens qui vont venir y habiter ou ce sont des investisseurs venus du Moyen-Orient, venus d'Asie justement ou de Russie qui viennent acheter, en effet, des
beaucoup logements ? Beaucoup d'investisseurs. Énormément d'investisseurs. Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez 36 000 propriétés à Londres qui sont détenues par des sociétés offshore.
Ouais.
D'accord. Donc déjà, c'est un moyen aussi de placer son argent d'une manière un peu discrète, pour ne pas dire autre chose. D'accord. Londres attire toutes les fortunes du monde entier. Et c'est vrai que si vous parlez à mes collègues qui travaillent dans le quartier de Mayfair, 75% des acquisitions se font via ce sont des étrangers, ce ne sont pas des Anglais. Et on va trouver le Middle East, on va trouver
l'Asie. On comprend le ressentiment des Britanniques. On comprend le ressentiment des Londoniens qui sont obligés de quitter, de s'exiler.
Alors, oui, un peu de ressentiment, c'est vrai. C'est vrai. En même temps, ils ne sont pas ce côté... Moi, j'ai vu des Anglais applaudir quand une entreprise a été rachetée par un fonds étranger ou quand des étrangers arrivent. Je vois les Anglais qui voient ça souvent de manière favorable. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être un rebalancement et un rééquilibre qui se met en place. Mais pendant longtemps, ils étaient contents parce que ça faisait marcher l'économie. Et ça créait de l'emploi.
Ouais, Anne-Elisabeth Moutet, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, alors, il y a des embouteillages aussi. Eh bien, une veille d'ascension où il y a la Foire de Paris au pied des studios de BFM Business. Je rappelle donc, je le disais, elle est éditorialiste, écrivain, spécialiste de la Grande-Bretagne. C'était dans les Échos ce matin, et je cite Sadiq Khan, donc, dont on parlait tout à l'heure. Hein. Il en coûte désormais plus cher de louer à Londres que de descendre dans un hôtel 4 étoiles dans une autre grande ville européenne. Il prenait l'exemple. 55 livres la nuit en moyenne pour se loger à Londres contre 44 livres au Best Western plus hôtel dans le 18e arrondissement de Paris. C'était au cœur de la campagne des municipales dont le scrutin aura lieu demain, Anne-Elisabeth Moutet. La question du logement, justement.
Ah ben, Londres est hors sol par rapport au reste de la Grande-Bretagne. C'est pas le même pays, c'est pas la même économie. C'est tout de même, comme Paris est un quart de la France en population, la région parisienne. Imaginez que Londres, c'est la région parisienne, puisque nous, on n'est que le centre. Mais Londres s'étend pendant des dizaines de kilomètres de chaque côté. C'est comme si le bassin parisien était la capitale de la France. Ce qu'il est en réalité, mais pas avec la même administration. Alors, c'est vrai que c'est une ville très chère, mais c'est vrai aussi que c'est une ville qui a une capacité de développement qui est très différente de la nôtre, avec tout ce système d'habitat anglais qui est un habitat en maison individuelle beaucoup plus souvent, en pavillon beaucoup plus souvent que en France, et pour une raison extrêmement simple: Londres est construite sur des étangs, et donc jusqu'à une date récente c'était extraordinairement difficile de construire des tours, et encore maintenant il faut vraiment faire quelque chose avec des fondations énormes, il faut faire un gros projet pour faire le genre d'habitation à plusieurs étages qui a été le modèle du développement urbain de la deuxième moitié du 19e siècle. Comme il y a un modèle de développement urbain de la deuxième moitié du 19e siècle en Angleterre qui est parallèle à celui de Haussmann et du développement français, et on se dirige vers quelque chose d'entièrement différent. Alors, si vous êtes prêts à prendre des transports en commun qui, heureusement, ont fait d'énormes progrès ces 20 dernières années, et je les prends depuis longtemps, donc j'ai vraiment l'habitude, à ce moment-là, vous habitez à 20 km du centre. Voilà.
Ouais, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, justement, l'un ou l'autre, hein ? On reparlera tout à l'heure, évidemment, de ce duo de choc donc, qui s'oppose demain pour succéder à Boris Johnson. Zach Goldsmith, Sadiq Khan, le travailliste, justement. Est-ce qu'ils ont assez de pouvoir pour influer, justement, sur les logements, la construction de logements ou de logements sociaux ? Anne-Elisabeth Moutet.
En partie, mais moins qu'on pense.
Moins de pouvoir, par exemple, que Madame Hidalgo, par exemple, à Paris.
Moins de pouvoir est réparti d'une manière différente. Par exemple, Madame Hidalgo n'a pas de pouvoir de police,
oui.
Et elle n'a pas de pouvoir sur les transports. Ce qui est d'ailleurs une chose relativement peu logique, mais il y a le service des transports d'Île-de-France, qui est le CIF, qui est un truc entièrement différent.
La coupe plutôt de la région, donc de Mme Pécresse.
Donc, sur le logement, il y a évidemment de quoi faire du logement social, etc., mais il n'y a pas du tout le genre de crédit qui existe en France, et il n'y a pas la possibilité de faire une aussi grande politique. Ils ont tous les deux, je vous ai entendu dans la voiture alors qu'on essayait désespérément d'arriver, ils ont tous les deux des politiques un peu semblables, mais elles sont différentes tout de même sur l'allocation des investissements et en particulier des investissements sur le
centre. Zach Goldsmith, il compte un peu sur le marché, l'état du marché, pour parvenir donc à 50 000 logements construits chaque année. Sadiq Khan, lui, il veut faire livrer des logements à un prix abordable. Bon, alors, il reste, c'est assez cousin, quoi, quand même, comme proposition.
Oui, alors ça, j'attends de voir, parce qu'essentiellement, il y a une demande à Londres. Et ça va plutôt... Ce qu'on est en train de faire, finalement, c'est l'évolution vers un salaire minimum, essentiellement, les gens veulent venir à Londres. Ils veulent venir à Londres pour toutes sortes de raisons. On a parlé des investisseurs corporate et puis des gens riches qui viennent de pays bizarres et dans un pays où c'est le droit qui règne et donc où on est sûr de ce qui va vous arriver. On va pas se faire confisquer toutes ces affaires si on déplaît à quelqu'un, etc. Ça, c'est très important. Mais il y a aussi le fait que toutes sortes de gens viennent à Londres pour y travailler parce que malgré tout, il y a des emplois partout et il y a des emplois assez faciles à avoir et dans l'ensemble, ça tient. Mais il y a une chose qui existe beaucoup pour les Londoniens de tous les jours, c'est la colocation. Ça existe depuis plus longtemps qu'en France et ça correspond plus à la manière britannique de vivre.
Ah oui, mais encore un mot, Laurent Demeure, tu reviendras sur l'enjeu de demain. Allez-y.
Oui, la colocation est développée depuis très longtemps à Londres et c'est vrai que le marché locatif britannique est un marché fluide. Ce n'est pas comme un marché français. Il n'y a pas besoin de produire des tas d'attestations, des tas de trucs, des tas de bidules, de monter un dossier comme ça. C'est simple. On loue son appartement. Si on ne le paye pas, on s'en va. Et c'est pareil pour l'emploi.
Cécile Duflot n'a jamais été ministre à Londres.
Heureusement pour les Anglais.
Elle m'a donné l'occasion de faire des tas d'articles amusants dans le Télégraphe. Cécile Duflot, donc merci beaucoup de ce point de vue-là. Mais non, effectivement.
Bon, allez, on va se retrouver dans un instant. Londres qui attire. Mais est-ce que Londres fait toujours rêver? On reviendra sur la bataille, justement, qui se noue pour demain, pour succéder à Boris Johnson, que certains présentent un petit peu comme un conte de fées, cette bataille. On verra, puisque le favori, eh bien, c'est un musulman, fils de chauffeur pakistanais. Bon, on verra, on essaiera évidemment de détailler tout ça. Puis on reviendra aussi sur pourquoi Londres attire, pourquoi Londres fait toujours rêver au travers de vos récits, de votre expérience. Les décodeurs de l'écho qui reviennent dans un instant, tout de suite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business. L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, et dans les décodeurs de l'écho tout à l'heure, dans un quart d'heure, hein, à 20h donc, eh bien, gros plan sur la Corée du Nord. Kim Jong-un, le leader nord-coréen, est-il le grand soleil du 21e siècle, hein? Oui, important congrès, exceptionnel congrès. Donc, on verra comment c'est suivi, justement, de l'étranger, dans ce pays qu'on ne connaît pas très très bien. On sera avec le grand spécialiste qui est Dorian Malovic. Et on continue, plus près de nous, oui, une ville très française aussi en même temps. C'est Londres. Tiens, combien de Français vivent à Londres? Plus de 100 000, non?
Plus de 500
000. Ça, 500 000, oui.
C'est une ville plus grande que Bordeaux.
Je savais que c'était en centaines de milliers d'habitants, mais voilà, c'est plus de 500 000, bien sûr. Oui, Londres avec un duo au sommet demain, duel au sommet demain, exactement, pour succéder à Boris Johnson, donc le maire conservateur qui tient les rênes de la ville depuis 8 ans maintenant, depuis 2008. Et on aura face à face, et c'est Dorothée Balzan qui nous l'expliquait tout à l'heure, eh bien, le fils d'un milliardaire, Zach Goldsmith, il est conservateur, face au fils d'un chauffeur de bus pakistanais, Sadiq Khan, musulman, qui est favori justement dans les sondages. Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste, écrivain, correspondante notamment du Télégraphe. Ça fait un peu conte de fées quand même, cette histoire, comme on le présente. C'est un peu le méchant fils de milliardaire face à, fils de Cosette, quelque part.
Hein, ça, en tous les cas, ça a été un grand thème de la campagne, mais le vrai conte de fées, c'est pas ce qui se passe maintenant, c'est ce qui s'est passé il y a 8 ans.
Avec l'élection.
Boris Johnson a été élu à Londres. Il faut savoir que Londres est une ville travailliste, qu'il y a 75 députés travaillistes et 43 députés conservateurs dans Londres, qu'il y a environ 1 500 000 londoniens qui votent à gauche et 1 300 000 qui votent à droite. Donc, c'était pratiquement impossible de prendre Londres, et Boris Johnson Johnson est une espèce de personnage particulier, d'abord qui a un énorme succès personnel parce qu'il est, amusant, il est sympathique, c'est un très bon orateur. Enfin, il a un attrait qui est au-delà de son propre parti. Et d'une part et d'autre part, il avait développé une technique qui ne va pas marcher cette fois-ci, mais qui était une technique de ce qu'on a appelé le beignet, parce que on avait dit tout à l'heure que Londres c'est la région entière. Il a fait voter les circonscriptions du cercle contre le centre. Le centre, il est indéboulonnable, il est travailliste. Quand il y a eu les élections pour le leader du Labour à Londres, on a voté pour Jeremy Corbyn, celui qui était le plus à gauche et de loin. Donc, il y a vraiment le poids des choses. Et Boris est encore populaire. Boris a fait la campagne de Zach Goldsmith. Zach Goldsmith, c'est le fils de Jimmy Goldsmith, oui, et en France, on se rappelle qui c'était.
L'Express.
Mais surtout, Zach Goldsmith, c'est exactement comme Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est-à-dire que c'est une erreur de casting totale d'une élection municipale. Il est chic comme elle, il est beau comme elle, il est pas idiot comme elle, et il est écolo comme elle. Et la politique de Londres, c'est quelque chose de plus brutal, et c'était une erreur. Et l'idée qu'il y a eu de choisir Zach, je sais pas qui l'a eu, mais c'est une idée ridicule.
Bon, Laurent Demeure à la tête de Coldwell Banker France Monaco, spécialiste de l'immobilier de prestige.
Moi, je trouve ça extraordinaire cette élection parce que on a, pour moi, l'Angleterre, enfin Londres d'aujourd'hui, c'est la vieille Angleterre face à la nouvelle Angleterre, fruit du travail, fruit de l'immigration, à qui tout le monde peut avoir sa chance. Ah ouais. Et c'est ça qui fait la force de Londres. C'est peu importe d'où on vient, aujourd'hui, tout le monde a sa chance. Et c'est ça que les gens viennent chercher.
La question de la religion, Anne-Elisabeth Moutet, on en a parlé. On dit, s'il est élu, Sadiq Khan, puisqu'il est favori dans les sondages, ce serait le premier maire musulman d'une capitale européenne. Bon, on en a parlé et on n'en a pas parlé finalement. Les Londoniens, j'ai pas l'impression que ça les a bouleversés d'avoir cette perspective d'avoir un maire musulman. Et en même temps, dans le camp conservateur, on a dit attention, il est peut-être radical ce monsieur,
alors,
non ?
Il n'est pas radical et tout le monde le sait. Il a été ministre dans le gouvernement de Gordon Brown. Il a co-organisé la campagne. Bon, ils n'ont pas eu de succès de Ed Miliband. Cela dit, c'est vrai aussi qu'il y a des régions de Londres où il y a un vote musulman. Ça existe. Et puis, on a le droit de le dire en Angleterre. Elle est différente de la France.
On n'a pas le droit ici de faire des...
Et il a partagé des estrades religieux avec des gens parcommandables. Alors, le problème, c'est que c'était il y a plusieurs années. Il a donné des interviews dérangeantes à Press TV, par exemple, à la télévision iranienne de propagande. Il a parlé des oncles Tom avec lesquels il ne fallait pas parler, ce qui est une expression extraordinaire. Ordinairement chargé.
C'est quoi les oncles Tom?
Les oncles Tom, ce sont les musulmans qui collaboreraient avec les blancs ou un truc comme ça. D'accord. Comme on dit.
Les blancs britanniques, quoi, c'est ça?
Oui. Alors, tout le monde pense sincèrement qu'il a fait ça parce que tout le monde le fait. Alors ça nous dit des choses inquiétantes sur le vote musulman et sur une partie du Labour, mais pas spécifiquement sur Khan. C'est triste à dire, mais c'est les choses. D'autre part, il faut bien se rendre compte que Zach Goldsmith est lui-même le fils d'un immigrant. Boris Johnson est le petit-fils d'un immigrant turc, ottoman plus exactement. Et que si vous commencez à éplucher les Londoniens, vous vous rendez compte que non, ils sont tous, c'est un melting pot.
Ils sont tous d'ailleurs,
beaucoup plus à Paris. Et ça a été un argument pour gagner les Jeux Olympiques de 2012, quand ils sont allés présenter leur dossier, ils ont dit on est une ville multiculturelle, on est une ville ouverte à tous, etc. Ont gagné.
En face, juste un mot, il y a eu des accusations aussi d'antisémitisme dans le camp travailliste.
Alors ça, malheureusement, c'est vrai.
C'est la semaine dernière, c'était jeudi, l'ancien maire de Londres, alors vraiment très, très à gauche, Ken Livingstone, qui a été suspendu donc, de son parti après avoir qualifié Hitler de sioniste. Oui, parce que le Zach Goldsmith, il est juif aussi. Hein.
Alors ça dérange personne.
Non, mais je n'ai pas dit que ça
en plus, sa mère ne l'est pas, ce qui fait que je pense que techniquement, il ne l'est pas. Ouais. Mais vraiment, alors ça, c'est pas rentré dedans. Il y a un problème plus grave au sein d'une partie du Labour, et pas de tout le Labour, mais d'une partie du Labour, qui est l'alliance beaucoup plus à gauche que Sadiq Khan, entre une partie des radicaux et une partie des islamistes. Et ça a fait gagner des voix, ça avait gagné des villes comme la ville de Bradford, qui a eu un maire qui a fini par être expulsé du Labour, mais ça a pris du temps, George Galloway. Et alors là, les choses qu'il dit sont des choses terrifiantes, c'est ce qu'on entend de haine absolument incroyable. Ça existe, ça a été toléré par Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn a été sur la même plateforme que des gens qui disaient qu'il fallait jeter les juifs à la mère, tous. Il y a un membre de son parti qui vient enfin de se faire suspendre et qui expliquait qu'il fallait déporter, enfin le mot anglais c'était relocate, la totalité de la population juive d'Israël en Amérique. Il y a eu des choses qui ont été dites qui étaient invraisemblables. Et puis, Livingstone c'est un provocateur, il a toujours été un provocateur, et donc essentiellement c'est Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, il asticote les choses de la même manière que Jean-Marie Le Pen, et il a cette espèce de manière de rigoler après, qui est tout à fait celle de Jean-Marie Le Pen. Ce sont sont les rouges-bruns. Bon, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose de spécifique, mais c'est la tendance qu'on voit à la direction du Labour à cause de l'arrivée étrange de Jeremy Corbyn.
Alors, Londres, hein, on le disait, donc ville extrêmement dynamique, hein, qui grossit. Olivier Gérard, qui est associé européen chez Cushman & Wakefield, hein, qui est vraiment un bon observateur, évidemment, de l'immobilier d'entreprise, puisqu'il dirige des bureaux dans le monde entier, notamment à Londres. Et c'est vrai que les entrepreneurs, ils sont attirés par la ville de Londres. On est aussi un témoin, Rémi Pességuier, donc à la tête de SV Digital. Accès plus facile aux capitaux, fiscalité plus avantageuse. Dorothée Balzan, toujours elle, justement, qui nous expliquait tout à l'heure le duel au sommet. Elle est allée, il y a quelques mois, rencontrer ces entrepreneurs français qui ont fait le choix de Londres. Son reportage.
Dans le quartier d'affaires londonien, les grandes tours sont souvent le siège de banques, mais de plus en plus d'entrepreneurs viennent s'y installer, comme le français Fabrice Ayat. Il a intégré une pépinière de start-up. Après avoir vécu à Paris et à Londres, choisir la capitale britannique était une évidence pour plusieurs raisons.
L'accès aux capitaux, il y a à la fois en qualité et en quantité, une industrie du capital risque qui est extrêmement dynamique ici à Londres. Le deuxième élément, c'est la simplicité administrative. Et le troisième, c'est la flexibilité en matière de droit du travail pour embaucher, mais aussi, si les temps sont plus durs, pour réduire la voilure.
L'autre clé de la réussite est de solliciter l'aide des mentors présents dans la pépinière, comme Alain Fallis, un entrepreneur français. Son conseil, ne pas venir uniquement pour les avantages fiscaux, car la vie à Londres est chère et le calcul n'est pas toujours payant.
Il faut savoir pourquoi on vient ici. On y vient parce que on veut s'attaquer à un marché britannique ou parce qu'on veut faire de Londres sa tête de pont pour attaquer un marché mondial.
Le Royaume-Uni est considéré par les entrepreneurs comme un des pays les plus attractifs du monde, aux côtés des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de la Corée du Sud. La France n'est pas si loin, elle aussi dans le top 10 mondial.
Voilà, reportage de Dorothée Balzan. Oui, cette flambée démographique dont on parlait il y a quelques minutes, hein, justement, c'est signe de dynamisme, signe de richesse également. Rémi Pességuier, donc associé chez ESV Digital, vous dirigez le bureau de Londres, hein. Alors là, vous y êtes maintenant. Mais quand vous étiez un petit peu plus jeune, pas très très vieux, lorsque vous avez quitté le SCP, donc étudiant, vous avez choisi Londres tout de suite. Vous êtes allé donc à la City, vous avez travaillé aussi dans la banque d'affaires également. Qu'est-ce qu'on trouve à Londres? Qu'est-ce qui marque Londres, justement? C'est quoi? Pourquoi choisir Londres?
Je pense que, en tout cas de mon expérience, j'ai terminé mes études, déjà c'est assez incroyable. On se retrouve dans des grands plateaux avec des traders, énormément de traders qui, on a l'impression, gouvernent le monde. Et donc c'est assez grisant et c'est assez intéressant de commencer par ça. Ça, je pense, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il y a un dynamisme qui est assez incroyable. Aujourd'hui, je pense que je dois avoir 30% de mes camarades de promotion qui doivent être à Londres aujourd'hui. Donc c'est assez impressionnant, la capacité d'attraction. Après, ce qui était très intéressant dans le reportage, c'est qu'aujourd'hui, la capacité de financement se trouve à Londres, que ça soit pour des startups, mais aussi pour des grands groupes. Les principaux fonds d'investissement de private equity ou de fonds de LBO ou de fonds de venture sont localisés à Londres, avec des équipes françaises, qui est assez étonnant, qui sont localisées également à Londres et qui font l'aller-retour entre Paris et Londres pour aller suivre leurs investissements et leur participation. Donc c'est vrai qu'on est dans une économie qui est étonnante, qui croît et qui attire, et dans laquelle les gens ont tendance à se diriger.
Olivier Gérard, associé européen chez Cushman et Wakefield, la croissance économique, elle est deux fois plus élevée à Londres que dans le reste du pays, hein. 80% des emplois du secteur privé en Grande-Bretagne, ils sont créés à Londres, justement. Pourquoi est-ce qu'on vient à Londres? Qu'est-ce qui fait la force de Londres, le sang de Londres?
Les points d'attraction, déjà on peut parler de la langue, qui est une langue internationale. Le deuxième point, c'est la finance, qui accueille les entreprises du monde entier. La réglementation est extrêmement attirante, la simplicité au niveau de la mise en place des structures. Côté fiscal, effectivement, n'est pas forcément avantageux. Le côté social en matière de charges est assez avantageux si on le compare à d'autres pays comme le nôtre. En revanche, il y a un autre élément qui pour moi est important, c'est que depuis toujours, on l'a vécu quand on était petit, quand on était adolescent ou depuis qu'on est adulte. La diversité que l'on voit dans les rues de Londres, entre le brassage de population, l'homme d'affaires avec son chapeau haute forme, melon et son parapluie et le punk qui marche à côté, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'envie ou de comparaison entre les gens, et c'est la même chose dans le monde industriel. Alors les entreprises viennent, les entreprises sont de plus en plus diverses, les capitaux sont de plus en plus divers, et je pourrais dire que dans mon industrie, Londres devient de plus en plus une des principale place pour investir ses capitaux massivement dans le monde, voire plus que New York.
Anne-Elisabeth Moutet, simplement, je reviens sur ce parallèle que faisait donc Olivier Gérard avec l'homme en haute forme. Bon, il y en a peut-être de moins en moins maintenant, c'était plus années 80, les, comme les punks d'ailleurs. Bon, je sais pas, mais bon, pourquoi pas.
Savile-Roux existe encore.
C'est vrai, oui, bon, alors, peu importe. C'est quoi? C'est l'idée que chacun, on peut gagner sa vie, quel que soit le rang, qu'on soit dans la finance, qu'on soit dans la banque d'affaires à JP Morgan, comme l'était à une époque Rémi Pesseguier, comme l'est également le père du candidat travailliste à Londres, chauffeur de bus pakistanais. On peut faire fortune à Londres?
Alors, faire fortune, c'est une chose, mais la notion de mobilité sociale et la prime à la jeunesse sont deux choses qui sont vraiment différentes de la France. En France, on a vraiment l'impression, premièrement, que les choses sont pliées parce que une école de gouvernement que nous ne nommerons pas, Trust, et absolument tous les postes, et la moitié de la promotion 1980, dite la promotion Voltaire, est donnée à toutes sortes de gens. On a vu Air France la semaine dernière. Et qui était donc à l'ENA avec le président de la République, ce qui est tout de même un petit peu dérangeant.
Talentueux malgré tout, hein, dans le transport. Mais enfin bon.
Ils sont jamais idiots, mais c'est tous les mêmes. Alors la notion de diversité est vraiment d'autant plus embêtante qu'ils pensent tous de la même manière. Alors d'une part, les Anglais aiment bien la diversité parce que bien avant qu'il y ait une diversité ethnique à Londres, il y avait la tolérance en Grande-Bretagne de l'excentricité et le fait qu'on a accueilli les Huguenots français au XVIIe siècle, c'est aussi une des choses qui ont ruiné la France. C'est le départ des protestants français au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Ils vont en grande partie en Angleterre et un peu en Allemagne. Donc tout ça, ça joue. Et puis l'autre chose, c'est qu'en Angleterre, il faut être jeune. En France, on vous regarde, vous êtes jeune. Ils sont en train de battre le pavé place de la République parce qu'ils ont l'impression que personne ne va leur ouvrir la porte, ce qui est malheureusement en partie vrai. En Grande-Bretagne, je me suis trouvée à 30 ans travailler dans un journal dont ma patronne avait 27 ans et j'étais une vieille. Et c'était très bien. Et on est encouragé à renouveler les choses. On dit aux jeunes, allez-y. Quand je suis arrivée au Sunday Times, qui a été mon premier job à Londres, j'avais 26 ans et j'ai fait les papiers économiques pendant environ 4-5 mois et puis j'avais écrit quelque chose qui avait amusé le rédacteur en chef. On m'a donné un bloc-notes, ma photo, mon nom en grand, tout ce qu'on veut, etc. Ça n'existe pas dans la presse française. Et on vous remplace aussi vite. On est viré en 24 heures. On vous donne un carton où on met ses dossiers, ses trucs et sa plante verte et on fout le camp. Mais c'est entièrement différent comme ambiance. Alors c'est normal que les gens aient envie de venir.
Laurent Demeure, c'est quoi les atouts justement par rapport aux autres capitales européennes?
Il y a deux choses. Je vais revenir après sur les jeunes. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas exposé. L'avantage de vivre à Londres quand on a de l'argent, déjà, c'est une vie agréable, Londres. C'est une vie, bien sûr, c'est une grande ville, il y a des embouteillages, il y a du bruit, mais c'est une vie agréable, c'est une vie plus douce, c'est pas une ville agressive. Je vous fais un challenge.
Faites la comparaison avec Paris.
Faites un challenge. Olivier avait ses bureaux à Avenue de Friedland. Je vous fais le challenge. Traversez l'avenue de Friedland au passage piéton.
Oh là là.
À Londres, posez votre pied sur un passage piéton, tout le monde s'arrête. Et ça.
Il n'y a pas de klaxon à Londres.
Il n'y a pas de klaxon.
Oui, alors ça, je vous trouve.
Il y a un respect. Il y a un respect des cultures. Il y a un respect des autres. Et ça, ça attire. Et quand on a de l'argent, on vient chercher cette ambiance-là. Ah non, et autre chose qu'on n'a pas parlé, on a parlé beaucoup des jeunes, mais on a oublié de dire, et là, il y a les meilleures universités mondiales en dehors des États-Unis sont à Londres.
Bien sûr.
UCL, LSE, King's College. Donc les trois.
Les facs de Londres qui attirent de plus en plus d'étudiants étrangers.
Dans les 10 meilleures universités mondiales, il y a 7 américaines et 3 londoniennes, et 3 anglaises.
Près de 4 000. La meilleure école d'ingénieurs du monde maintenant.
Voilà. Donc.
Près de 4 000 étudiants français se trouvent à Londres, et sans compter les lycéens. Il y a 3 lycées français maintenant.
Bien sûr. Donc ça attire les jeunes pour avoir la meilleure éducation du monde. Et aujourd'hui. Et
À un prix raisonnable
comparé aux États-Unis. Donc, puisqu'il y a un système qui permet d'avoir des prêts qu'on peut rembourser sur 15 ans, 20 ans après avoir commencé à travailler. Donc, le système britannique est intelligent et pertinent. Et donc, si on attire les jeunes, les meilleurs étudiants du monde entier, naturellement ensuite, ces étudiants s'installent, viennent vivre à Londres et commencent à développer de l'activité, des start-up.
Comment Londres fait pour attirer les entreprises innovantes, Rémi Pesseguier, vous qui êtes à la tête d'ESV Digital?
Je pense que le point clé, c'est le financement. C'est-à-dire, typiquement, l'année dernière, si je me trompe pas, il y a un rapport de 1 à 2 sur le montant investi sur des startups anglaises versus des startups françaises. Donc, il y a déjà un énorme écart de financement. Après, il y a aussi un aspect assez simple pour moi, en dehors des fonds, c'est la capacité à rencontrer dans un restaurant, à côté de soi, quelqu'un qui va être un business angel et qui va vous donner une chance. Je pense que ça change tout.
Olivier Gérard, associé européen chez Cushman & Wakefield. Juste, je reviens sur l'histoire des tours aussi, parce que tout à l'heure on évoquait ces plus de 200 projets de tours. On sait oser à Londres. On est un beaucoup plus frileux à Paris. Anne Hidalgo, elle était allée voir à Londres justement, comment ces nouvelles tours modifient le paysage urbain. C'est un argument en faveur de l'attractivité aussi.
C'est un argument pour une ville, effectivement. Je pense que Londres est une mégalopole, c'est une métropole internationale. Il n'y en a que deux en Europe, Paris et Londres. Et Londres attire par ses projets, par les grands noms, les grands architectes qui participent à ses projets, par les investisseurs qui accompagnent ses projets, par les entreprises qui occupent ses projets. Et oui, tout à fait, c'est un élément extrêmement important. Peu de villes dans le monde ont cette attractivité, ce développement industriel par les immeubles. Certaines villes dans les pays du Moyen-Orient, et je crois que ici, quelqu'un ici présent rentre de Dubaï. Donc Dubaï est un bon exemple. Mais oui, tout à fait. Non, ça transforme la ville, ça dynamise la ville, ça rend la ville moderne, créative et donc attirante pour les regards internationaux.
Londres fait donc toujours rêver, Anne-Elisabeth Moutet. Malgré les problèmes de logement, malgré les problèmes de transport saturés également, on en a beaucoup parlé dans la campagne des municipales.
Alors,
demain.
On a beaucoup parlé des transports parce qu'il faut les améliorer. Les transports londoniens sont chers par rapport aux transports parisiens.
D'accord.
Mais moi qui ai vécu vraiment et qui ai aussi fait la navette entre Paris et Londres pendant des années, il y a 25 ans, le métro de Paris était bien mieux que le métro de Londres et maintenant c'est l'inverse. Il est à Londres, il est propre, il est rapide, ils ont fait des nouvelles lignes, etc.
Ils ont modernisé des lignes. Mais on attend la nouvelle liaison Crossrail, hein, c'est-à-dire une sorte de super RER
à côté de
sur 130 kilomètres, justement, Heathrow ne sera plus qu'à 30 minutes par métro au lieu de presque une heure. Hein.
Non, enfin par métro, oui, mais Heathrow est à un quart d'heure avec un train qui arrive à Paddington.
Oui,
donc tout de même, il y a ça. Je voudrais apporter un bémol sur toutes les tours et tous les développements. C'est le londonien normal, c'est même la majorité qui reste. Des individus, il y a un moment où ils trouvent que ça commence un peu à être difficile, qu'on a laissé faire, en particulier dans les développements immobiliers de l'ouest de Londres, en face, à côté de Chelsea Power Station, de Battersea Power Station, en face de Chelsea. On a laissé faire un peu n'importe quoi avec des immeubles pour riches construits comme des espèces de machines à écrire en verre. Et le sentiment est malgré tout que le caractère même de Londres, cette gentillesse que vous trouviez encore, mais qui pour un Anglais a considérablement disparu, est changée.
Pardon, ce que vous dites quoi ? Il y a plus d'agressivité maintenant ?
Ah, pour un Anglais, oui. Il suffit d'ailleurs de sortir de Londres pour voir la différence. J'étais à Manchester il n'y a pas très longtemps, et la différence entre l'atmosphère dans la rue, avec les gens, chez les commerçants, entre Manchester et Londres, c'est comme la différence entre Londres et Paris. C'est-à-dire qu'elle souffre du même mal que New York. On dit, ah mais c'est plus des Anglais, c'est des gens d'ailleurs. Et on ne dit pas ça parce que c'est leur origine ethnique, c'est une manière de se comporter qui est une manière un peu différente. Alors quelque part, les Anglais qui sont vraiment ouverts à tout le monde disent « Oui, mais on est en train de casser, on voudrait que ces étrangers qui viennent chez nous pour des choses qu'ils théoriquement aiment chez nous, ne les flanquent pas en l'air. » Récemment, j'ai vu une pétition parce qu'il y a eu un permis de construire qui laisse détruire l'intérieur d'immeubles construits vers 1820 dans des croissants, des crescents, ce sont des espèces de demi-cercle, des places en demi-cercle à côté de Regent Park, construit par l'architecte Nash, qui est un des grands architectes britanniques, et on va les transformer en appartements de luxe. Et les gens voient ça, et ce sont des choses absolument iconiques, et on se dit, il y a peut-être que Londres va un tout petit peu trop loin dans cette direction.
Juste une dernière question, un mot chacun, parce que je pense qu'on y reviendra nécessairement d'ici le 23 juin. Que va devenir, qu'est-ce qui va rester de Londres en cas de Brexit ? Allez, un tour chacun, rapidement un mot chacun. Anne-Elisabeth Moutet.
Écoutez, il y a deux points de vue et honnêtement, je ne sais pas lequel est le bon. Il y a l'idée que ça va être plus difficile pour la Grande-Bretagne et qu'il va y avoir un coût pour chaque foyer fiscal.
Parlons de Londres spécialement.
Londres, je ne pense pas qu'elle va changer beaucoup parce que ce qui fait la caractéristique de Londres, c'est-à-dire un régime légal, où on peut compter sur le droit, où l'attractivité existe, où les pratiques financières sont efficaces,
ça restera.
Etc., ça restera. Donc Londres elle-même, elle ira bien. Le pays, je suis moins sûr.
Olivier Gérard.
Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense que l'impact pourrait être important sur l'économie britannique, bien sûr l'économie londonienne en premier lieu. Il pourrait y avoir une évasion de certaines entreprises installées à Londres qui préféraient s'installer sur le continent national ou ailleurs. Et je pense qu'il y a un impact pour l'Europe continentale également.
Bon, on y reviendra. Allez, Rémi Pesseguier.
Pour moi, c'est très lié à la réaction des autres capitales qui sont en concurrence avec Londres. C'est-à-dire que si les autres capitales n'ont pas une proposition de valeur forte, Londres tiendra à sa place. Si par contre il y a une réaction d'une capitale comme Paris en ajustant son modèle, ça peut avoir de l'impact.
Quelles sont les chances que ça arrive ?
Ah bah ça,
c'est faible.
On verra ça.
Juste un point sur les familles à Londres. On n'a pas beaucoup parlé, mais je pense que les familles ont tendance à partir de Londres parce que c'est cher pour faire garder ses enfants, l'école. Et donc je pense que c'est un point aussi dans les points négatifs de ce qui se passe là-bas.
On l'a dit avec les familles sortent. Les classes moyennes. Le cas de Brexit, Laurent Demeure.
Oui, pour Colin Baker, en fait, nous, ce qu'on a étudié et ce qu'on voit actuellement, c'est que l'immobilier britannique
commence à souffler un tout petit peu sur le luxe, puisqu'il y a 10% de négociations aujourd'hui sur les grandes propriétés.
À cause de quoi? Des menaces du Brexit,
Ah, ouais. Oui. L'immobilier entreprise est en baisse sur le premier trimestre et on voit de plus en plus d'expatriés commencer à venir réinvestir sur Paris.
Ah, d'accord.
Donc si le Brexit arrive, ils vont souffrir réellement, je pense.
Merci à tous. Laurent Demeure, président de Coldwell Banker France et Monaco, avec nous également Rémi Pességuier, qui est associé chez ESV Digital. Il dirige le bureau de Londres, c'est une entreprise spécialisée, un cabinet de conseil dans la stratégie, la transformation digitale. Olivier Gérard, associé européen dans le géant de l'immobilier entreprise qui est Cushman et Wakefield. Et puis Anne-Elisabeth Moutet, journaliste, éditorialiste, écrivain, spécialiste de la Grande-Bretagne. Dans un instant, un spécialiste de la Corée du Nord, de l'Asie en général et de la Corée du Nord en particulier, le journaliste Dorian Malovic. Oui, on se posera cette question un peu provoque. Est-ce que Kim Jong-un est le grand soleil du 21e siècle? À tout de suite avec les décodeurs de l'écho.